Donc, je vais donc présenter maintenant notre conférencier aujourd'hui. Il s'agit de Dominique Bourg, qui est né en 1953. Il est actuellement professeur des universités à l'Université de technologie de Troyes, où il dirige le département technologie et sciences de l'homme. Il est aussi maître de conférences à Sciences Po et co-responsable du séminaire inter-diplôme d'études approfondies environnement, sciences et société. Il a fait des études dans plusieurs disciplines, mais essentiellement une concentration sur la philosophie, qu'il a terminée par une habilitation à diriger les recherches en philosophie à Lyon en 1998. Il dirige à Troyes, à l'Université de Troyes, le Centre de recherche et d'études interdisciplinaires sur le développement durable. Alors, je vous indique sa bibliographie, puisque c'est souvent ce que vous nous demandez. Vous pouvez la trouver très complètement, si vous n'avez pas le temps de noter les titres, vous pouvez la trouver très complètement sur nos sites Internet, aussi bien Télérama que celui de la Mission. Il a publié Nature et technique, essai sur l'idée de progrès, édition Attier, en 1997. Planète sous contrôle, l'homme artifice, je mélange un peu dans les dates, l'homme artifice, le sens de la technique, aux éditions Gallimard, collection Le Débat, en 1996, c'est 355 pages, c'était tiré de son doctorat sur nature et technique. Donc je répète, l'homme artifice, le sens de la technique, chez Gallimard, en 1996. Il a publié aussi Planète sous contrôle, des entretiens avec Philippe Petit, collection Conversation pour demain, édition textuelle, en 1998. Les scénarios de l'écologie, édition Hachette, collection Questions de société, 1996. Il y a deux livres à paraître qui sont mentionnés, Pour que la Terre reste humaine, en collaboration avec Monsieur René Barbeau, je crois, et Robert Barbeau et Nicolas Hulot, entretien avec Jean-Louis Schlegel, édition du Seuil, 99, 173 pages, c'est paru ça?
Oui, c'est paru.
Et puis apparaître Risques et précautions aux éditions du Seuil, prévues pour début 2001. Je lui laisse la parole donc pour parler de l'avenir de l'environnement pendant une cinquantaine de minutes et ensuite répondre à vos questions. Merci.
Merci Michaud. Merci Yves Michaud, bonjour mesdames, messieurs. Pour vous parler de l'environnement, évidemment, je ne vais pas m'amuser à décliner tous les problèmes environnementaux, ça n'aurait pas grand sens. Vous avez vu que l'actualité, d'ailleurs, me ferait paraître très rapidement incomplet. Non, je voudrais dans un premier temps, plus exactement, mettre en évidence les caractéristiques des problèmes environnementaux contemporains. J'insiste sur le mot contemporain. Et vous verrez qu'à partir de là, se dégagent quelques difficultés pour leur gestion politique. Et dans une seconde partie, précisément, j'envisagerai trois des grands scénarios possibles, politiquement parlant, pour répondre à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors, si l'on peut parler de problèmes d'environnement contemporain, ça signifie bien évidemment que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, si l'on se concentre sur les problèmes eux-mêmes, c'est-à-dire sur les difficultés que certaines dégradations environnementales ont pu occasionner à la gestion, à la direction des sociétés, on peut remonter très loin, on peut remonter jusqu'au néolithique, et parfois même ces difficultés ont entraîné la disparition de certaines sociétés. Alors, le premier, le plus grand des problèmes a été celui de la déforestation. C'est une très très vieille histoire qui commence dès les débuts de l'agriculture néolithique. Alors tout au début, évidemment, on a cultivé autour des villages parce qu'il y avait un enrichissement très ancien par toutes sortes de détritus organiques le long du lit des rivières, mais très vite, on a commencé à déforester. Et on a pratiqué, ça se pratique encore dans certaines régions du monde, l'agriculture par abattis brûlis. Et comme ça a marché, comme effectivement les effectifs démographiques de l'espèce humaine ont très vite explosé, probablement à la veille du néolithique, l'humanité comptait quelques millions d'habitants. On les fourchette aussi entre 2 et 15 millions, mais au début de l'ère chrétienne, c'est déjà 350 millions. Donc puisque les choses ont réussi, on a commencé à augmenter la vitesse de rotation, et puis au bout d'un moment, eh bien, on n'a plus laissé la forêt repoussée, d'ailleurs elle ne pouvait plus repousser, et on a connu un phénomène d'érosion. On trouve d'ailleurs une description très exacte de cela dans le Critias de Platon. Alors il y a d'autres causes, les constructions, les flottes, etc. Ça, c'est un très ancien problème. Il y en a bien d'autres. les problèmes d'hygiène, par exemple, hein, qui ont été une constante pour la gestion des villes durant toute l'histoire, etc. Je ne vais pas m'amuser à faire un descriptif détaillé ici. Alors, on peut même remonter beaucoup plus loin, c'est-à-dire que si on ne s'occupe pas simplement des dégradations qui ont occasionné des difficultés aux sociétés, on pourrait remonter alors même jusqu'à Homo habilis, grosso modo 2,5 millions d'années avant nous, parce que semble-t-il, chaque fois que nos cousins investissaient, alors ça n'a pas cessé après, hein, rassurez-vous, chaque fois que nos cousins investissaient un territoire nouveau, eh bien en général, on peut constater la disparition d'un certain nombre d'espèces de la mégafaune, quelles que soient les conditions environnementales, ce qui fait qu'on les attribue en général à l'ivresse de la chasse de nos très très anciens cousins. Toutefois, on a parfois tendance à croire que, même sans tenir compte de ces anciens problèmes, que la crise écologique, comme l'on dit aujourd'hui, apparaît dans les années 70 avec l'écologie politique. Alors c'est tout à fait faux. Il y a une conscience très précise déjà de cette fameuse crise écologique dès le milieu du XIXe siècle. Et un des livres les plus, même peut-être le livre le plus significatif, c'est un livre d'un géographe, George Perkins Marsh, qui s'appelait « L'homme et la nature », publié au début des années 60, en 1864 à New York. Et là, pour la première fois, on voit une analyse déjà scientifique de la crise environnementale. Il met en évidence le rôle des forêts et donc les effets sur les écosystèmes. Il n'emploie évidemment pas cette notion qui n'existait pas, mais les effets sur le milieu de la déforestation. On a là donc déjà une prise de conscience avec un soubassement scientifique de ce qu'on appellera plus tard la crise écologique, alors que, si vous voulez, il existait déjà une littérature de contestation de la civilisation industrielle qui provenait grosso modo du courant romantique, mais qui n'avait pas de base scientifique. Et ces analyses scientifiques vont alors se renforcer jusque, grosso modo, à la veille de la guerre de 14, on va voir apparaître une littérature abondante, absolument pas marginale, assez puissante, notamment une attention à l'épuisement des ressources, en se fondant par exemple sur le second principe de la thermodynamique, etc. Donc on y trouvera beaucoup d'économistes. On voit aussi, parmi toute cette littérature, des visionnaires comme Patrick Gates, par exemple, qui opposait déjà, si vous voulez, ce qu'il trouvait, le stade qui était actuel des techniques, qui lui était contemporain, qu'il appelait un stade paléotechnique, il appelait de ses voeux un stade néotechnique où on aurait mis au point des techniques moins dispendieuses en termes d'énergie, notamment. Donc vous voyez, c'est une assez vieille affaire, c'est une très vieille histoire. Alors, au même moment que paraissent tous ces livres, eh bien, apparaissent plus exactement des mouvements, par exemple ce qu'on appellera plus tard les ONG, le Sierra Club, qui naît en 1860 aux États-Unis, la création des premiers parcs nationaux. Et même en France, vous avez à peu près à la même époque, dans les années 1860, je crois, le mouvement des peintres de l'école de Barbizon pour défendre la forêt de Fontainebleau et ses paysages. Mais, quand même, on assiste à une sorte de rupture à compter de la Seconde Guerre mondiale, de l'après-Seconde Guerre mondiale, pour peut-être dire les choses plus rapidement. Cette rupture, elle est due à trois facteurs. Il y a une mobilisation énorme des forces et des énergies économiques durant la guerre, mais cette mobilisation ne va pas cesser après, pour Dieu merci, de toute autre raison. On va voir aussi une envolée, alors, qui commence pendant la guerre elle-même, de l'innovation technologique, et aussi, comme vous le savez, une envolée de la démographie planétaire. Alors, ce triple phénomène conjoint va déboucher sur des effets désormais massifs des activités humaines sur la biosphère. C'est une situation nouvelle, nous ne l'avions jamais eu à la connaître, et on va le voir, on sait très mal ce que cela peut occasionner. Alors, simplement, quelques exemples pour illustrer les choses. Si on prend la production d'aluminium, elle a par exemple entre 1930 et 90, elle a augmenté d'un facteur 118. La population mondiale entre 50 et aujourd'hui, vous le savez, a doublé, mais en revanche, la consommation d'eau, quant à elle, a triplé. On peut aussi donner d'autres éléments pour bien mettre en évidence le changement d'échelle. Eh bien, par exemple, chaque année, nous charrions plus de matière que toutes les forces de l'érosion réunies, ce qui n'est pas sans signification. Les cycles que nous produisons, que nous occasionnons, de soufre, d'azote, d'arsenic, etc., sont 3 à 4 fois supérieurs aux cycles naturels. On voit donc un changement qualitatif, une situation profondément nouvelle. Alors, petit transparent pour illustrer ça. On voit donc une série de courbes qui vont en quelque sorte exploser. Et voilà. Alors, on peut peut-être grossir un peu l'image. Voilà, merci. Donc il y a les courbes d'émission du carbone, de déforestation, de consommation d'eau, évidemment, qui sont plus anciennes, mais on les voit commencer à monter de façon exponentielle. Et à cela s'ajoutent de nouvelles courbes qui n'étaient pas là, évidemment, auparavant. Alors, on a donc affaire à un phénomène nouveau. Et je voudrais maintenant dégager, si vous voulez, précisément la nouveauté de ce phénomène en dehors de l'aspect quantitatif qui apparaît sur ce schéma. Ça me semble extrêmement important. Donc, première caractéristique des problèmes environnementaux contemporains, c'est leur globalité. Je vous l'ai dit, l'humanité a eu à connaître durant toute son histoire toutes sortes de problèmes d'environnement. Pensez par exemple qu'à Londres au XIIIe siècle, la ville était déjà couverte par un smog. Alors, très différent de celui par exemple qui en 1952 avait occasionné 4000 morts immédiates et 8000 morts différées. Il suffisait de faire quelques kilomètres pour qu'on n'ait plus à subir ce nuage. Alors, il était dû au fait justement que les Anglais avaient déforesté plus tôt que les autres et avaient été contraints pour leur chauffage domestique d'utiliser déjà d'une façon significative le charbon. Les historiens des villes connaissent les problèmes de traitement des déchets, d'eau. Les villes médiévales, par exemple, étaient pestilentielles et encore au début de l'ère moderne, etc. Mais à chaque fois, on avait affaire à une artificialisation locale, à des effets locaux de nos activités sur l'environnement. Aujourd'hui, il en va tout autrement. On a affaire à des effets globaux, à une perturbation des grands cycles biogéochimiques, le cycle de l'azote, le cycle du carbone, j'y vais revenir, le cycle de l'eau, etc. Et du coup, nous avons commencé à perturber tous les grands mécanismes régulateurs de la biosphère grâce à laquelle nous vivons. Alors, on peut indiquer d'autres petits constats. Vous ne trouvez pas une seule parcelle sur la planète où il n'y aura pas des traces de polluants divers, de DDT, de toutes sortes de grosses molécules, de macromolécules, PCB, etc. Je vous rappelais tout à l'heure justement les proportions atteintes par les flux de matière que l'humanité suscitait. Et du coup, on peut donner raison aux grands géochimistes, d'ailleurs véritable inventeur, c'est-à-dire constructeur du concept de biosphère, qui était le russe Vladimir Vernadsky, lorsqu'il disait de l'humanité qu'elle était devenue une force géophysiologique. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Et alors, c'est d'autant plus important que si l'on a appris au cours de l'histoire à gérer, ne serait-ce que par l'agriculture, mais avec beaucoup de mésaventures quand même, si l'on a appris à gérer un écosystème local, en revanche, on ne sait pas du tout gérer la biosphère. Et d'ailleurs, c'est probablement absolument absurde que de croire qu'on pourra un jour la gérer. La maîtrise technique à cette échelle, d'autant que cela renvoie à une échelle spatiale immense, et puis à une échelle de temps qui est sans proportion avec celle de l'action humaine, et j'y reviendrai, la gestion technique est à cette échelle-là tout à fait un leurre. Alors, pour illustrer cette situation nouvelle, eh bien, je ne considérerai qu'un phénomène, un seul. Alors, non, c'est l'inverse. Oui, je ne peux pas faire mieux, mais ce n'est pas très grave. Je vais considérer le réchauffement climatique, pour vous montrer justement le type de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et je prendrai l'exemple le moins mal connu, celui du cycle précisément du carbone. Eh bien, jusqu'au seuil de la révolution industrielle, on pouvait compter par millions de molécules d'air à peu près entre 200 et 280 molécules de CO2. Enfin, plus exactement, la CO2, mais aujourd'hui, il faudrait dire de molécules de gaz à effet de serre, je reviendrai tout à l'heure. Et cette quantité a été constante durant des centaines de milliers d'années. Or, aujourd'hui, on dénombre déjà par millions de molécules d'air 375, si vous voulez, parties de gaz à effet de serre, et on s'attend au cours du siècle qui vient de commencer ou qui va commencer, selon la chronologie qu'on retient, eh bien, on s'attend à un quadruplement, et non pas simplement un doublement, de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, que peut-on affirmer vis-à-vis de ce phénomène qui, comme vous le savez, comporte un certain nombre d'incertitudes? On peut s'attendre, c'est le scénario moyen, on peut s'attendre à une augmentation moyenne à l'échelle de la planète, au cours et plutôt vers la fin du siècle, de 2 degrés. Mais attention, 2 degrés, c'est d'une part un scénario moyen, il peut y avoir des scénarios qui sont plus funestes, mais 2 degrés en moyenne, ça signifie en général sur les continents une augmentation par un facteur 2 ou 3, ce qui est effectivement autrement significatif. Et plus on monte vers les pôles, plus le réchauffement sera accentué. Il sera plus accentué la nuit que le jour, l'hiver que l'été, donc je viens de vous le dire, sur les continents que sur les mers, aux pôles, qu'aux tropiques et aux latitudes moyennes. Aussi plus accentué en altitude qu'au sol. Alors, une des conséquences de ce phénomène, c'est une augmentation des transferts d'eau entre l'atmosphère et la surface. C'est une des choses qui semble assez assurée. C'est une augmentation du niveau des mers, pense-t-on à peu près d'un mètre à la fin du siècle. Si toutefois, là vous avez sur le transparent que je vous indiquais, la courbe qui montre le parallèle, si vous voulez, entre l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et l'augmentation de la température. Maintenant, si l'on ne parvenait en aucun cas, comme on va, j'espère, s'y engager plus fermement avec la prochaine conférence sur le réchauffement climatique qui aura lieu en novembre prochain à La Haye, eh bien... Eh bien, si tel n'était pas le cas, et si on imagine le scénario le plus catastrophique qui soit, on pourrait atteindre à la fin du siècle une augmentation, je dis bien un scénario catastrophe, qui pourrait plafonner jusqu'à 7 degrés. Là, évidemment, c'est le scénario catastrophe. Alors, quels sont les risques, d'après ce que l'on sait? Alors, encore une fois, sur quoi se fonde tout cela? Je pourrais revenir d'une manière plus détaillée dans les questions, mais... si vous voulez, de façon plus générale, il y a absolument deux choses qui sont certaines. On a constaté une augmentation de la température moyenne durant le siècle qui vient de s'achever, avec les deux décennies les plus chaudes qui sont les deux dernières décennies du siècle, première certitude, mais on ne sait pas si l'on peut attribuer cette hausse dans la température à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il peut y avoir des phénomènes de variabilité naturelle qu'on connaît mal. Deuxième chose absolument certaine, eh bien, c'est que ces molécules, les CFC, je vais y revenir, le CO2, etc., le méthane, qui sont au moins des molécules triatomiques, ont un effet unique. C'est de piéger dans les basses couches de l'atmosphère le rayonnement infrarouge, et donc d'occasionner, selon un rythme alors qu'on ne connaît pas du tout, mais in fine, d'occasionner nécessairement une augmentation de la température moyenne. À la différence de la vapeur d'eau qui joue un rôle double, ces molécules-là jouent un rôle unique, simple. Et donc, même si l'on se trompe, de toute façon, le phénomène finira par se produire. Alors maintenant, ce que je viens de vous indiquer de manière plus détaillée avant et les risques que je vais essayer de dégager, bon, disons, s'appuie sur la convergence d'une quinzaine de modèles qui fonctionnent depuis un certain nombre d'années dans différents laboratoires sur la planète. Alors évidemment, tous ces modèles sont fondés sur les mêmes paramètres, c'est ce qui aussi quand même les fragilise. Alors quels sont les risques essentiels? Eh bien, une augmentation probable, j'insiste là-dessus, des inondations, des sécheresses, des épisodes caniculaires avec leur cortège de décès anticipés, des sous nos latitudes, des gelées intenses. Autre risque encore, mais tout à fait probable aussi, c'est-à-dire un renforcement des épisodes violents, des tempêtes. Alors, on ne peut pas faire le lien détaillé entre les tempêtes et le réchauffement climatique, mais on sait que ce réchauffement va augmenter la quantité d'énergie dans l'atmosphère et donc devrait donner lieu à des décharges énergétiques plus importantes. Autre risque, alors extrêmement important celui-là, c'est par la modification de la température, de ses conséquences en termes de taux de salinité de l'eau, eh bien on peut perturber les courants thermohalins, c'est-à-dire les courants qui sont en quelque sorte le moteur de l'océan et qui font remonter les sels minéraux à la surface, et donc qui sont au début de la chaîne alimentaire marine. Et par exemple, on n'en est absolument évidemment pas certain, mais une des conséquences possibles serait... peut-être la descente vers le sud du Gulf Stream, auquel cas nous aurions à Paris, et plus largement en Europe de l'Ouest, un climat semblable à celui de Montréal. Adieu évidemment les vignes de Bourgogne et de Bordeaux, sans parler des autres. Alors, autre chose encore, évidemment, si on a affaire à un phénomène assez lent d'augmentation progressive de la température, on va tout simplement constater, si vous voulez, enfin insister à une... une remontée vers le nord des écosystèmes. En revanche, si on a à faire un changement plus brutal, et effectivement, par le passé, on sait que le climat peut donner lieu à des bifurcations tout à fait brutales, ça a déjà existé, d'une dizaine de degrés environ en quelques décennies, et bien évidemment, là, c'est pas un déplacement, c'est vraiment un choc énorme, et la disparition des arbres, etc. Alors, pour l'agriculture, l'augmentation du CO2 est dans un premier temps une bonne chose, mais un des facteurs plus importants pour l'agriculture, c'est quand même, si vous voulez, la stabilité climatique. Là, on aura un climat instable et brutal, ce qui n'est pas génial pour le rendement des terres. On devrait aussi assister à une plus grande virulence et mutabilité des micro-organismes pathogènes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une augmentation du niveau des mers qui n'est pas sans signification, puisque 80% de la population planétaire vit au bord des côtes. Et donc, risque ultime de tout cela, si vous ajoutez tous les facteurs que j'ai mentionnés avant, eh bien, c'est un risque géopolitique extrêmement important. Alors, ça, c'est la première caractéristique. Elle se traduit tout de suite par une difficulté politique évidente. C'est que, puisque les phénomènes de perturbation qu'on occasionne sont globaux, eh bien, il faudrait pouvoir y répondre de manière globale, donc par des négociations internationales. Et vous savez, on va probablement encore le constater à La Haye, à quel point c'est difficile d'amener les États à s'entendre sur ces biens communs planétaires que sont devenus l'atmosphère, la biodiversité, l'eau, etc. C'est une chose très difficile, les réflexes égoïstes de défense des intérêts, même si en l'occurrence ils risquent d'être tout à fait contre-productifs, sont quand même encore très forts. Alors, deuxième caractéristique et qui est extrêmement importante, c'est que, si vous voulez, tous les grands problèmes qu'on connaît, je viens d'en parler tout de suite avec le fameux effet de serre et le réchauffement climatique, avec la pollution nucléaire, avec l'érosion de la biodiversité et d'autres problèmes globaux, par exemple, toutes les perturbations occasionnées au système endocrinien des êtres vivants par toutes ces macromolécules qui se promènent et se concentrent tout au long de la chaîne alimentaire, dans les graisses animales, etc. Eh bien, tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes globaux, aucun de ces problèmes n'est tangible, accessible au sens. Pour les connaître et pour amener la population à être sensibilisée à ces problèmes, il faut passer par des médiations scientifiques. Et là, on est dans une situation très différente des problèmes traditionnels d'environnement. Pensez par exemple à la pollution des eaux, que sais-je, occasionnée par les tanneries, par le rouissage du lin. Pensez aux problèmes d'hygiène dans les villes. Au XVIIe siècle, on s'inquiétait énormément de l'effet de l'urine sur les édifices publics. Tout ça, c'était visible, et pas que visible, vous en doutez, c'est le dernier exemple. Or, en revanche, les exemples relatifs au changement global, on ne les perçoit pas, on n'en perçoit pas les conséquences, il faut passer par des médiations scientifiques. Or, c'est très gênant, parce que ces médiations, et on va y revenir tout de suite après, engendrent de l'incertitude. Et donc, il est très difficile, par exemple, de convaincre le public de changer certains de ses comportements lorsqu'on ne peut lui opposer que de l'incertitude. Ça rend la gestion politique de ces problèmes extrêmement difficile. Donc, ce qu'on sait n'est pas suffisant pour nous amener à changer de comportement, mais est déjà suffisant pour nous angoisser. Situation pas très facile. Troisième caractéristique, je vais y insister un tout petit peu plus, c'est que tous ces problèmes que je viens de vous indiquer, tous ces grands problèmes de changement global, à l'exception, et encore il faudrait nuancer, de l'effet de serre, aucun de ces problèmes n'a été prévu. Mais ce n'est pas qu'un constat empirique. Au fond, non seulement ces problèmes n'ont pas été prévus, mais ils sont en fait imprévisibles, à la fois pour une question de principe et pour une question de moyens. Pour une question de principe, pourquoi ? Eh bien, parce que chaque fois, imaginons qu'on mette au point une molécule nouvelle, et on en diffuse entre 1000 et 2000 nouvelles par an, il y en a 6 millions depuis la révolution industrielle qui se promène dans les écosystèmes, eh bien, on va se fonder sur 2 ou 3 mécanismes. Bon. Ensuite, la molécule en question va être diffusée, immergée dans le milieu, et là, elle va interagir avec toutes les autres molécules possibles. Et donc, il n'est pas absolument impossible de savoir par avance quels sont les effets qu'elle va pouvoir occasionner. C'est par exemple ce qui s'est passé avec les chlorofluorocarbones dont on s'est servi à compter des années 50 après les avoir inventés en 1860, par exemple pour les faire fonctionner les réfrigérateurs. Eh bien, on a retenu ces gaz-là parce qu'ils paraissaient très stables et précisément n'interagir avec rien d'autre. En revanche, on s'est aperçu au début des années 70 que ces fameux CFC contribuaient à détruire la couche d'ozone, d'une part, et que d'autre part, cette fois-ci, dans les couches beaucoup plus basses de l'atmosphère, ils constituaient des gaz à effet de serre redoutables, plus de 1000 fois plus puissants qu'une molécule de dioxyde de carbone. Et donc, impossible de le savoir. D'ailleurs, dans les années 50, et encore moins en 28, quand ils ont été inventés, il n'y avait pas de chimie stratosphérique. Donc, on a affaire à une imprévisibilité de principe et en plus de moyens. Même si on voulait, par exemple, essayer d'explorer les dangers occasionnés par toutes les molécules que l'on diffuse en une année, et tous les laboratoires de la planète n'y suffiraient pas. Et ça pose aussi une autre difficulté, parce que, si vous voulez, le savoir permet d'engendrer des techniques nouvelles, les techniques nouvelles mettent en évidence de l'ignorance, par les problèmes qu'elles occasionnent, et c'est à ce moment-là qu'on fait venir les experts. Et donc, par définition, les experts vont intervenir sur des choses qu'ils connaissent mal, et on ne peut en aucun cas leur reprocher. Alors, vous pouvez tout de suite, si vous voulez, imaginer la difficulté politique qui découle de ceci, c'est qu'effectivement, gouverner, c'est prévoir. Nos sociétés sont de plus en plus fondées sur un substrat technique qui, quant à lui, nous interdit de prévoir les effets qu'il pourra à plus long terme occasionner. En d'autres termes, lorsque Descartes, au seuil de la révolution scientifique, annonçait que nous allions devenir comme maîtres et possesseurs de la nature, eh bien, on peut faire le bilan de cette affirmation quasiment trois siècles après et nous pouvons nous rendre compte qu'effectivement, nous pouvons maîtriser à une échelle à la fois temporelle et spatiale, locale, mais qu'à une échelle plus large, que notre maîtrise engendre des effets qu'on ne peut pas prévoir, donc on ne peut pas maîtriser, et qui plus est, qui très souvent nous laisse face à une certaine impuissance. On n'a rien d'autre à faire face aux CFC qu'à arrêter de les produire. Alors, si vous voulez... Autre caractéristique encore de ces problèmes contemporains, donc on vient de voir qu'ils étaient, si vous voulez, globaux, qu'ils étaient invisibles, imprévisibles, et on peut y ajouter une autre caractéristique, c'est qu'ils comportent aussi une grande part d'inertie. Si nous cessions, par enchantement évidemment, d'émettre à compter d'aujourd'hui tout le surcroît proprement anthropique de gaz à effet de serre, ça ne changerait pas grand-chose quant au problème qui nous attend au cours du siècle qui s'annonce, parce que tous ces gaz ont une très grande inertie. Alors évidemment, vous voyez aussi politiquement la difficulté, elle est évidente. Vous voyez bien que si un homme politique essayait vraiment de prendre à bras-le-corps les problèmes d'environnement et d'y répondre, il devrait imposer des sacrifices à ses contemporains et il ne pourrait en aucun cas, à l'élection suivante, faire valoir un quelconque résultat. Il ne pourrait faire valoir que la gêne occasionnée. Évidemment, ça n'est pas très motivant sur un plan électoral. Alors, donc vous voyez que les problèmes d'environnement ont un grand avenir. On n'a pas encore vu grand-chose, on risque de voir bien d'autres choses dans les décennies qui viennent. Alors du coup, effectivement, cette situation a très souvent poussé l'imagination politique dans ces derniers tranchements et amène très souvent les penseurs, les politologues, etc., à imaginer des scénarios assez radicaux. Alors, je crois qu'on peut retenir trois grands scénarios politiques. Un scénario fondamentaliste qui renverrait à ce qu'on appelle la deep ecology. Ensuite, un scénario autoritaire préconise d'instaurer une tyrannie pour nous en sortir. Et enfin, un scénario démocratique qui repose grosso modo sur trois piliers, j'essaierai de les indiquer tout à l'heure. Alors, commençons par le premier de ces scénarios, celui de ce courant de pensée qu'on appelle la deep ecology, ou écologie profonde ou radicale. Je préfère quant à moi radicale. Bon, le problème, ces gens le disent, le fauteur de tous les troubles, c'est l'anthropocentrisme. Ils sont toujours d'ailleurs bien analysés cette notion et ses conséquences. Alors, si l'on voulait ramener vraiment à quatre propositions absolument essentielle cette deep ecology, eh bien, on pourrait retenir les quatre affirmations suivantes. La première, nous disent-ils, la nature a une valeur intrinsèque. Alors, on peut l'entendre d'une façon assez plus soft, si vous voulez. On peut dire qu'effectivement, la nature vaut autrement qu'en tant qu'instrument de consommation et de jouissance immédiate. Ce que le naturaliste, évidemment, incarne tous les jours, ou le peintre, par exemple. Mais on peut l'entendre en un sens beaucoup plus radical. Et à ce moment-là, on va affirmer que la nature possède une valeur en dehors de tout acte humain d'évaluation. Alors, si je dis que les choses existent en dehors des énoncés qui les décrivent, ça ne pose aucun problème. Bon. Mais en revanche, si je dis que les valeurs existent en dehors des actes de langage qui les posent, c'est très gênant parce que les valeurs ne sont pas des choses et elles ne peuvent exister qu'au travers d'actes de langage, si vous voulez. Et donc, on se trouve un peu dans la position, en affirmant une chose pareille, du baron Munchausen qui tentait de s'arracher du sol en se tirant par les cheveux, ce qui est très gênant. Alors ça, c'est la première affirmation, la nature a une valeur intrinsèque. Deuxième affirmation, il y a un ordre de valeur, hein, inhérent à la nature, qui, on vient de le voir, ne vient pas de nous, qui nous transcende, mais qui s'impose à nous. Du coup, la nature peut apparaître comme le modèle et la source de nos valeurs. Troisième affirmation, la valeur suprême, c'est la nature elle-même, mais en un sens un peu plus précis, c'est-à-dire la totalité des espèces vivantes et des milieux qui leur sont associés, autrement dit la biosphère. Et ensuite, on va passer à l'ultime conséquence de tout cela, c'est-à-dire on va passer du plan éthique des valeurs au plan juridique. Et à partir de ce moment-là, on va affirmer que tous les êtres naturels doivent être considérés comme des sujets de droit et que le principe essentiel de ce nouveau système juridique biosphérique est le droit égal de toutes les espèces à l'existence. On passe donc là de l'éthique au droit. Ça a l'air très sympathique, ça a l'air très intéressant. On se dit, mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant? Voilà une solution géniale. Or non. Je crois qu'on peut lui apporter trois critiques, je vais essayer de le faire assez rapidement. Tout système juridique, quel qu'il soit, repose en fait sur trois fonctions, qui renvoient chacune à une capacité particulière. La capacité d'ester en justice, c'est-à-dire de porter un conflit devant la justice. La capacité de trancher un litige entre intérêts, de façon neutre. Et enfin, évidemment, la capacité de se réclamer bénéficiaire du jugement rendu par la justice. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais vous imaginez tout de suite que ces trois capacités renvoie aux capacités qui sont celles des sujets humains et non, évidemment, par exemple, des animaux. Alors, du coup, je crois qu'il faut être clair, on ne peut pas demander au droit ce qu'il ne peut en aucun cas produire. C'est une institution qui est faite par et pour les hommes. On peut évidemment, et mieux vaudrait d'ailleurs le faire plus, on voit avec le successeur de l'Erika, mieux vaudrait mieux défendre la nature, et j'y reviendrai, mais c'est les hommes qui doivent le faire, et ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire pour eux, par exemple, au nom des générations futures. Alors, qu'arriverait-il si vraiment à toute force, avec une intense obstination, on voulait quand même transformer le système juridique? Eh bien, en déniant nos capacités, on n'aboutirait pas pour autant à un système qui ne serait pas anthropocentré. Au contraire, par exemple, les juges devraient interférer entre les animaux, lorsque des conflits, pense-t-on, les opposent. Dès qu'un chat mange une souris, il faudrait porter le problème devant la justice, ça n'a pas grand sens. Alors, deuxième critique que je voudrais apporter, c'est que tout ça semble très sympathique, mais est-ce qu'une morale, passons cette fois-ci, revenons du droit à la morale, est-ce qu'une morale non anthropocentrée, c'est quelque chose de possible? Un philosophe américain qui s'appelle Paul Winslow Taylor, a essayé de construire un tel système. Il aboutit grosso modo à cette conclusion, c'est un exemple, mais c'est pour illustrer les choses. Dans certaines circonstances, nous dit-il, il est plus grave de tuer une plante sauvage que de tuer un homme. Évidemment, si vous considérez, si vous voulez, non plus les individus, mais l'espèce, arracher une Edelweiss, eh bien c'est très dangereux pour la survie de l'espèce. En revanche, même en cas de légitime défense, c'est l'exemple qu'il donne, tuer un homme n'a aucune incidence sur l'existence des 6 milliards qui continuent à mener une vie tranquille. Donc, on ne touche pas à l'espèce. Alors, prenons un autre exemple. Si vraiment nous avons une dignité égale à celle des animaux, eh bien pourquoi, alors, surtout en période de vache folle, ne pas manger de la viande humaine? C'est moins risqué, enfin, normalement. Bon, je ne vois pas bien comment on peut justifier, si vous voulez, la préférence pour la viande bovine. Alors, plus sérieusement, vous voyez, on arrive vraiment, de ce fait, à une destruction, à mon sens, de ce qui est le fondement de toute morale, c'est-à-dire la règle éthique qu'on appelle la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'autrui te fasse, te fie. Bon. Eh bien, et en fait, c'est vraiment le fondement de toute morale possible. Et donc, on détruit par là même toute morale, ce qui est quand même gênant. Alors, troisième critique, sur le plan politique. Qu'est-ce que serait qu'une démocratie qui ne serait pas anthropocentrée? Je laisse libre cours à votre imagination. Alors, on peut toujours, avec Bruno Latour, penser à son Parlement des choses, mais je ne suis pas sûr que ce soit autre chose qu'une métaphore. Je ne vois pas en quoi les lois de la nature peuvent manifester les intérêts des êtres vivants. Toutes les pollutions qu'on aujourd'hui, toutes les dégradations chimiques obéissent évidemment aux lois de la nature, mais il y a un certain nombre de perdants, vous le savez. Et alors surtout, on en arrive à pouvoir justifier toute horreur. Hein. Bon, alors on a prêté un pauvre écologue qui n'en peut mais parce qu'il avait énoncé cette phrase pour dénoncer les conséquences possibles. C'était William Aiken. Il disait « Une mortalité humaine massive serait une bonne chose. Il est de notre devoir, du devoir de notre espèce, vis-à-vis du tout, vis-à-vis de la biosphère, d'éliminer 90% de nos effectifs. » Programme radical. Hein. Effectivement, on n'aura plus de problème d'environnement après. Alors, ce qui est grave, c'est que on a créé là une machine folle qui pourrait justifier ce genre de choses. Effectivement, si la valeur, ce n'est pas l'individu, mais c'est le tout, l'ensemble des espèces, si l'humanité, par ses effectifs démographiques fantaisistes, eh bien, contribue à la disparition, et vous le savez, accélérée d'un certain nombre d'espèces, voire met en danger la biosphère, il est alors tout à fait moral d'exiger une réduction drastique de ses effectifs. Pas d'exiger qu'elle disparaisse, parce qu'elle a un droit égal, mais justement, elle doit le respecter, donc respecter aussi le droit des autres avec ce que cela implique. Alors, bon, je vais vite, si vous voulez. Conclusion là-dessus. C'est un scénario inutile, parce que le problème, c'est la prévention, et c'est pas d'aller punir telle personne parce qu'elle a écrasé une fourmi. Deuxième, cela dit, il y a, attention, j'ai caricaturé peut-être un peu, en tout cas, j'ai forcé les angles. Mais vous avez une immense littérature aujourd'hui qui se réclame de ce courant, où il y a quand même des choses intéressantes, et les figures qui sont à l'origine sont des figures intéressantes. Il y a une vraie question que pose ce courant de pensée. Eh bien, c'est qu'effectivement, la règle d'or ne concerne que l'intersubjectivité. Elle laisse complètement de côté les effets de nos actions sur les écosystèmes. Ce n'était pas très gênant, enfin, ça pouvait l'être par rapport aux droits, enfin, à mon avis, pas le droit, mais des devoirs qui sont les nôtres vis-à-vis des animaux, mais aujourd'hui, ça devient extrêmement gênant. Donc là, on a une question à laquelle, je veux dire, on n'a pas de réponse. Et il est très difficile d'en fournir une. Alors, deuxième scénario, cette fois-ci, c'est le scénario autoritaire, celui alors d'un grand philosophe qui est Hans Jonas. Bon, Hans Jonas constate par du résultat suivant. Il constate que les pouvoirs qui nous sont donnés aujourd'hui par les techniques d'un côté et par le marché de l'autre font que finalement, la biosphère, d'une certaine manière, probablement pas jusqu'au bout, mais d'une certaine manière, est devenue dépendante de nos actions. Et que du coup, nous sommes capables d'infliger, à échelle humaine bien sûr, des dégradations irréversibles à la biosphère, d'un côté, et de l'autre, nous sommes capables de dégrader les soubassements biologiques de notre propre humanité. Certains nourrissent d'ailleurs un souhait extrêmement vif d'y toucher. Donc, nous dit Hans Jonas, il y a une nouvelle responsabilité qu'il exprime de la manière suivante par ce qu'il appelle son principe responsabilité. Il nous dit « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la performance d'une vie, la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre, et de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. » Alors, comment appliquer ce principe, nous dit-il, par l'heuristique de la peur. L'heuristique de la peur, c'est prendre le contre-pied de l'idéologie du progrès. Pensez à feu le professeur Jean Bernard qui nous disait ceci. Effectivement, les sciences et les techniques posent des problèmes, mais d'elles-mêmes, elles résoudront ces problèmes. Il n'y avait aucune preuve. Alors, évidemment, c'était faire preuve d'un optimisme assez fou. Hans Jonas, lui, parie sur l'inverse. Et un siècle de pollution globale, à mon avis, suffit à légitimer de prendre le pari inverse. Il nous dit, quels que soient les effets immédiats qu'on peut tirer d'une technique, il convient toujours d'imaginer, ne fût-ce que dans un futur très lointain, les conséquences les plus désastreuses possibles de cette technique. Et si ces conséquences peuvent, à un moment donné, remettre en cause le bon fonctionnement de la biosphère ou le soubassement biologique de l'espèce humaine, encore une fois, en dépit des avantages immédiats, mieux vaut y renoncer. Alors, là aussi, on a affaire à une pensée puissante, beaucoup plus puissante que celle de la deep ecology, disons-le en passant, mais je crois qu'on peut quand même objecter un certain nombre de critiques. Première chose, eh bien, c'est qu'on ne peut pas séparer éthique et politique, Jean Jonas. Il le dit lui-même, la moitié de son livre est consacrée à la politique publique, mais pour une raison plus sérieuse, plus philosophique. C'est que si l'on veut rendre vraiment cette éthique opératoire, via l'heuristique de la peur, eh bien, on ne peut pas laisser libre cours aux imaginations individuelles. En plus, très souvent, ce sont des choix collectifs, au moins industriels, si ce n'est politique. Et donc, il faudrait qu'il y ait une instance, des experts, qui nous disent, effectivement, dans ce cas-là, ne le faisons pas. Dans ce cas-là, faisons-le. Donc, ça n'a rien d'un impératif catégorique. Ce n'est pas un raisonnement formel que tout un chacun peut déployer. Et alors, quelle est la solution que retient Hans Jonas sur un plan politique? N'oubliez pas que son livre paraît en Allemagne en 1979. Eh bien, nous dit-il, les démocraties sont incapables de faire face aux problèmes d'environnement. Elles sont trop hédonistes. En revanche, mieux vaut s'intéresser à ce qui se faisait à l'Est. Là, évidemment, on est obligé de parler à l'imparfait. Et dit-il, ce qu'il faut, le seul moyen de nous en sortir, c'est, je cite, d'instaurer une tyrannie bienveillante, une sorte d'oxymore, et bien informée. Et qui va reprendre de l'intérieur, si vous voulez, à la fois l'économie planifiée, le feu les démocraties de l'Est, et puis le pouvoir centralisé qui les caractérisait. Et ce conseil des sages, ce conseil d'experts, nous dit-il, n'hésitera pas de recourir au pieux mensonge, citation de Platon. Évidemment, on va se servir toujours de l'idéal d'émancipation et de justice marxiste, mais à des fins cette fois-ci trompeuses, pour mettre fin justement à ce que Jonas appelle la fête industrielle. Alors, bon, la première question qu'on doit poser, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça serait vraiment efficace? Il va de soi que c'est illégitime pour d'autres raisons, mais est-ce que ça serait efficace? J'en suis pas du tout persuadé. On aurait donc affaire à un petit groupe d'experts qui seraient isolés, qui seraient persuadés de détenir le salut de l'humanité, c'est déjà assez lourd, et ensuite, qui ne subiraient aucun contrôle d'aucune sorte. Vous avez beau mettre à l'origine les gens les plus sages à l'intérieur de ce comité d'experts, vous avez de toute façon là une machine institutionnelle qui ne peut que déraper. En termes un peu vulgaires, ces gens-là vont disjoncter. Déjà, il y a des dissensions qui apparaîtront entre eux, ils n'auront aucune instance supérieure et aucune loi pour trouver les moyens d'y mettre fin. Et ils vont, si vous voulez, par la suite démotiver les populations, ils vont les infantiliser, et je crois que tout ça est un gage d'inefficacité. En revanche, dans nos démocraties, il y a, vaille que vaille, un contrôle du peuple, enfin des élites par le peuple et du peuple par les élites. Cela dit, en conclusion encore, eh bien, il faut bien voir que ce scénario de Hans Jonas, on ne doit jamais le perdre de vue. De toute façon, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui se situe au-dessus de nos démocraties. Si nous ne sommes pas capables de répondre à la crise, de toute façon, ce scénario se réalisera. Première chose. Deuxième problème, on retrouve les limites de la règle d'or. La règle d'or, c'est l'intersubjectivité dans un espace commun et dans une simultanéité sur un plan temporel. La règle d'or n'a rien à nous dire des générations futures. La question que pose Jonas reste une question extrêmement importante. Comment à la fois concilier le processus démocratique et les intérêts des générations futures? Pensez simplement aux réactions qui sont pas, par certains côtés, qui sont pas entièrement illégitimes, mais que nous avons eues il y a un ou deux mois au moment où on a augmenté le prix de l'essence. Alors, enfin, troisième scénario. Il va de soi, je crois que vous l'avez compris, que c'est celui que j'appelle de mes voeux. Il repose sur trois piliers. Le principe de précaution, ce qu'on appelle la démocratie participative et l'écologie industrielle. Il me reste une dizaine de minutes, je vais essayer de caser tout ça en 10 minutes. Premièrement, le principe de précaution, il ne faut jamais oublier qu'on a affaire à un principe d'action qui incite à agir à la source de danger en dépit des incertitudes qui affectent ces dangers. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le caractère imprévisible, etc., me semble suffisant à fonder les choses. De manière plus générale, on a affaire à un cadre d'appréhension plus mûr, plus mature du progrès que l'idéologie qui nous fait croire que, nécessairement, les techniques et les sciences conduisent à une amélioration du niveau moral de l'humanité et ne peuvent que conduire non seulement à une amélioration du niveau moral, mais général de la condition humaine. Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut plus soutenir aujourd'hui, ça n'est pas très sérieux. Alors, donc, très grosso modo, voilà ce qu'est le principe de précaution. Entrons un petit peu dans les détails, commençons par mieux le cerner en disant ce qu'il n'est pas. Je viens de le dire, ce n'est pas un principe d'inaction. Bon. Ce n'est pas non plus une exigence de risque zéro. Le principe de précaution n'a de sens que face à des risques graves et ou irréversibles. Alors, le problème, c'est que cette définition-là qu'on retrouve dans la littérature internationale est une définition qui vaut pour l'environnement. En termes sanitaires, le mot d'irréversibilité n'a pas le même sens, il est inutile. Ensuite, on vient de le dire aussi, ne confondons pas prévention et précaution. On a affaire à la prévention lorsqu'on est confronté à un risque qu'on connaît. Si tel, je ne sais pas moi, tel transport par rail de déchets nucléaires se renverse, malheureusement, on sait quelles pourraient être les conséquences. C'est la prévention, ça n'a rien à voir avec la précaution. Alors ensuite, ne le confondons pas non plus avec le principe responsabilité, parce que le principe responsabilité, déjà, va bien au-delà des problèmes purement physiques. En revanche, le principe de précaution, à l'origine, est conçu pour les risques environnementaux. On l'élargit non sans raison aux risques sanitaires et on tente de l'élargir un petit peu plus aujourd'hui. En tout cas, c'est une tendance. Avec le principe de responsabilité à la Hans Jonas, on aurait une volonté de contrôle absolument en amont de l'innovation. En revanche, ce n'est pas du tout le problème du principe de précaution. On constate à un moment donné qu'on a peut-être affaire, peut-être, à une chaîne causale qui pourrait être délétère quant à ses effets. Et alors on intervient. Ce n'est pas du tout un contrôle en amont. Alors, c'est d'une certaine forme en amont, mais pas de manière aussi radicale. Très rapidement encore, ce principe peut donner lieu à trois interprétations. Si on voit par exemple la lettre de la définition à Rio, on parle simplement d'approche de précaution. C'est donc, si vous voulez, une sorte de principe philosophique qui devrait inspirer l'action du législateur et de l'exécutif. On peut ensuite, c'est déjà le cas maintenant dans le droit, même international, même déjà en fait à l'intérieur de... on voit bien comment l'Office de règlement des différends à l'intérieur de l'OMC tend à se rapprocher du principe de précaution, et en tout cas à l'intérieur de l'espace européen, il n'y a aucun problème, on a affaire à un principe de politique publique. Mais on peut aller plus loin. Et il y a une certaine tendance, aujourd'hui assez puissante, qui s'oriente dans cette direction, c'est de voir dans le principe de précaution une règle de droit qui serait destinée à s'appliquer à tous les décideurs. Moi, je suis assez favorable à cette extension, mais il faut bien comprendre que du coup, on change assez radicalement la signification du principe et qu'il commence à se rapprocher du principe responsabilité de Hansula, ce qui n'est pas forcément un problème si on ne fait pas découler toutes les conséquences sur un plan politique, qui contraindrait par exemple les industriels à explorer le danger lorsqu'ils mettent au point des artefacts sensibles. Mais de toute façon, il faut être clair sur ce plan-là, le principe de précaution, ce n'est pas une panacée, il n'y a pas de politique parfaite, hein. Je crois que la chose doit être assez claire. Ensuite, deuxième élément, deuxième pilier important, pour ma part, j'aurais tendance à parier sur notre sagesse à tous, et donc à faire le pari de ce qu'on appelle la démocratie participative. Alors, retenons deux institutions, l'une à caractère, enfin déjà française, strictement française, et à effet plus réduit, mais c'est la Commission nationale du débat public qu'on va mettre en œuvre chaque fois qu'on a à faire un choix d'aménagement du territoire important, mais même simplement l'implantation d'une ligne à haute tension EDF. Mais au-delà de ça, je voudrais attirer l'attention sur cette procédure qui existe aujourd'hui à l'échelle internationale, qu'on appelle les conférences de citoyens. Alors, les Danois qui les ont inventées au cours des années 80, au milieu des années 80, en reprenant, mais en le changeant complètement de nature, une autre institution américaine qui était les conférences de consensus médical, où on réunissait des spécialistes sur un domaine médical pour dégager un standard de soins en quelque sorte. Les Danois, non, ont retenu ces conférences, qu'ils appellent de consensus, pour convoquer des citoyens, pour discuter d'une difficulté posée par l'interface société-technique. En général, pour ces problèmes-là, la partition droite-gauche n'est pas efficace. Et les Danois ont organisé déjà plus d'une dizaine de ces conférences. Cette institution a essaimé partout dans le monde occidental, y compris en Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, etc. Eh bien, je retiendrai la procédure française, parce que les Danois, eux, font une espèce d'appel dans la presse, et les gens qui vont composer cette conférence sont des gens qui sont, motivés, un peu militants. Les Français, non, par sondage, vont essayer de réunir, évidemment avec l'accord des gens, une sorte de panel de citoyens qui représente toutes les tendances de notre pays. Et du coup, on a affaire alors à une sorte de mini-parlement, où des gens vraiment désintéressés, ils ne sont décideurs en rien, on le vérifie sur la question en cause, et donc ils vont vraiment faire ce dont rêvait Locke, c'est-à-dire discuter d'un problème de façon rationnelle et en ne retenant que l'intérêt général. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire que ces institutions doivent se substituer au Parlement. Il faut que les politiques gardent leurs responsabilités. Ce sont eux qui sont responsables, mais on peut imaginer que ces conférences peuvent contribuer à les éclairer. Enfin, et j'en arrive à la troisième solution, alors petite insistance quand même, c'est très différent, je l'ai éprouvé moi-même en étant membre de la modérateur, je vous assure que ce n'était pas une chose simple, de la commission qui, il y a un ou deux ans, avait statué sur l'avenir de la forêt de Fontainebleau. Il y avait là des représentants d'associations qui venaient avec un mandat, et la discussion était absolument impossible. Et donc, ça n'a aucun intérêt. En revanche, le citoyen standard, lui, n'a pas de mandat. Il a un cerveau, il sait bien s'en servir. Je ne veux pas dire que les autres ne le savent pas, mais ils ont canalisé l'usage de leur cerveau à l'avance. Alors, troisième pilier, l'écologie industrielle. Bon. C'est une sorte de nébuleuse de pensée, de programme qui est née au sein de l'Académie nord-américaine des sciences de l'ingénieur et qui, si vous voulez, part du constat suivant, c'est-à-dire que nous sommes la seule espèce au sein de la biosphère à, d'un côté, épuiser des ressources et, de l'autre, à accumuler des déchets. Vous ne faites pas d'illusions, ça ne pourra pas durer très longtemps. Alors, comment remédier à ça? Eh bien, c'est d'essayer d'amener pas simplement nos structures productives, mais de manière plus générale, nos sociétés industrielles, à imiter le fonctionnement quasi cyclique des écosystèmes naturels. Alors, dans un premier temps, ça débouche sur un programme assez concret. Il y a déjà des réalisations concrètes en quatre points. Valorisation des déchets, dématérialisation. Alors, c'est, si vous voulez, c'est pas simplement technique. Là, l'aspect économique et gestionnaire est très intéressant. Par exemple, le fait de pousser jusqu'au bout l'économie des services et d'amener les industriels à ne plus vendre certains produits, lorsque ça a un sens, mais à les louer. Parce que du coup, leur intérêt est complètement changé. Ils ont intérêt à produire des choses durables. C'est tout bénéfice pour l'emploi parce que la maintenance est plus dispendieuse en termes d'emploi, évidemment, aujourd'hui, que la production, etc. Ensuite, lutter contre les dissipations de matière. Alors, on en a un bel exemple, là, en mer du Nord. Et la décarbonisation de l'énergie, on pourra venir dans les questions. Mais il y a un deuxième niveau, et je vous assure que ce n'est pas de la science-fiction. Ce deuxième niveau, ce serait bénéficier de cette espèce de conjonction aujourd'hui extraordinaire de trois révolutions technologiques à l'œuvre. Enfin, pas trois révolutions technologiques, d'une quatrième révolution technologique industrielle, mais qui pourrait être plus importante que les trois précédentes, et qui se fonde sur trois génies et leur, encore une fois, leur synergie. Le génie robotique, d'un côté, le génie génétique, de l'autre, et enfin, le génie moléculaire, ce qu'on appelle les nanotechnologies. Et ça serait, par exemple, eh bien, dans un avenir indéfini, de parvenir à produire à froid, comme le vivant, non plus par extraction, transformation par la chaleur de matière, mais par agrégation avec des millions d'assembleurs moléculaires, pour reprendre l'expression de Drexler. Ce serait la possibilité d'édifier artificiellement des coprophages et des nécrophages qui recycleraient ce qui ne peut être recyclé naturellement, de reprogrammer des bactéries, chose qu'on sait déjà faire. Bon. Et donc, encore une fois, d'imiter autant que possible le fonctionnement cyclique des écosystèmes naturels. Alors, abordons maintenant un troisième niveau. On aurait affaire, là, à une véritable rupture. Rupture par rapport à ce qu'est le programme de nos économies depuis déjà le temps du vieux Bacon, qui nous disait qu'il fallait en toute chose, au début du XVIIe siècle, faire reculer les bornes de l'empire humain. Des économistes contemporains, Solow Hartwig, vous diraient qu'il faut effectivement, alors ils ont comme souci un problème d'équité intergénérationnelle, c'est que chaque fois, par la vie économique, on détruit des ressources, donc on détruit le capital naturel, et nous disent-ils, l'essentiel c'est de maintenir au moins égales les capacités productives, pour ne pas être injuste vis-à-vis de ceux qui vont nous suivre, et donc de substituer à ce capital naturel du capital reproductible en termes de machines, d'artefacts, etc. Et donc, le programme baconien se retrouve exprimé par ces économistes, et de manière générale, c'est la grande finalité de l'action telle que les modernes l'ont retenue. Le donné naturel n'a aucune dignité. L'action a pour dessein de détruire et de transformer, disait le vieil Hegel, le donné naturel. Eh bien, on aurait alors affaire, là, pour le coup, à une rupture. Le problème, ce serait, en bouclant nos cycles de matière sur eux-mêmes, de dégrader le moins possible les écosystèmes naturels, et non plus de s'étendre, de techniciser tout. On sait que ça n'a aucun sens de techniciser la biosphère. Bon. Et alors, on pourrait encore redire ça pour vous montrer la radicalité de cette révolution éventuelle. Je dis bien éventuelle, c'est un peu un rêve, mais j'espère qu'il se réalisera. Eh bien, on retrouverait, on casserait, si vous voulez, ce que nous disait Heidegger, à savoir que eh bien, l'expansion des techniques est un phénomène irrésistible, qu'elle obéit à l'expression d'un énoncé métaphysique, qui est la volonté de la volonté, c'est-à-dire que les techniques n'ont plus aucune finalité, si ce n'est d'augmenter leur propre puissance. Eh bien là, ça ne serait absolument pas le cas. Il y aurait une finalité nouvelle, le bouclage, et donc la réduction de la puissance et des effets de cette puissance sur les écosystèmes. Donc voilà, j'en ai fini, si vous voulez, avec cet exposé. Vous remarquerez que les difficultés demeurent, que les scénarios que j'envisage ne répondent pas point par point aux difficultés que j'ai indiquées, mais simplement, je voulais dire, et ça me semble important à mes yeux, que l'avenir n'est pas nécessairement sombre, qu'il y a des possibilités de faire autre chose, de répondre à cette crise. Est-ce que nous les suivrons? Est-ce que nous les réaliserons? Pas plus que vous, je n'en sais rien, mais en tout cas, ces possibilités existent. Je vous remercie pour votre patience.
Bonjour. Votre exposé, J'ai été un peu frustré parce que j'ai le sentiment que vous raisonnez, enfin, votre exposé ne tient pas compte ni de l'espace ni du temps. Je veux dire par là que les émissions de gaz à effet de serre, etc., ce dont on souffre aujourd'hui, je me demande si ce ne sont pas les émissions qui ont eu lieu en 1950 et qui ont mis un certain temps, enfin quelques décennies, à monter au niveau de la couche d'ozone. Et en ce qui concerne l'espace, je me demande si ça n'est pas un peu réducteur de raisonner au niveau de la biosphère et de ne pas tenir compte de ce qu'il y a au-delà de la biosphère. J'imagine que ces mêmes gaz à effet de serre, il doit y avoir une évaporation en dehors de la biosphère vers l'univers, exactement comme une supernova.
Je réponds tout.
Alors, j'ai dû mal m'expliquer, mais j'ai à plusieurs moments insisté sur le facteur temps. J'ai insisté sur le facteur temps justement pour indiquer les limites de l'action qui était la nôtre. J'ai insisté sur le facteur temps pour mettre en évidence l'incapacité où nous étions de prévoir les problèmes que nos techniques pouvaient à moyen et long terme occasionner. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, si vous voulez, pour le problème de l'effet de serre lui-même. Attention, ne confondons pas effet de serre d'un côté et déplétion de la couche d'ozone de l'autre. Alors là, au contraire, j'ai insisté sur le facteur temps parce que précisément, ça renvoyait à une autre caractéristique que j'avais essayé de mettre en évidence, c'est-à-dire l'inertie. Par exemple, les molécules de dioxyde de carbone, de CO2, ont une longévité d'au moins entre un siècle et demi dans l'atmosphère. Ensuite, elles disparaissent. Je ne saurais pas vous dire alors quel est le procès chimique qui est derrière. Il faudrait que vous le demandiez à un chimiste ou un climatologue. Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais le facteur temps est donc extrêmement important. On émet par an, alors si mes souvenirs sont bons, je crois, ce qui reste dans l'atmosphère de nos émissions, c'est en gros, je crois, 7 gigatonnes. Par rapport au nombre de gigatonnes contenues par l'atmosphère, ça peut paraître quelque chose d'assez modeste. Mais en revanche, c'est précisément l'effet cumulatif, année après année, qui, quant à lui, fait tout à fait sens. Donc, le facteur temps, effectivement, est très important, mais il rend notre tâche et les réponses que l'on peut apporter à ces problèmes d'autant plus difficiles. Et derrière chacune des caractéristiques des problèmes environnementaux, il y avait le facteur temps, il y avait aussi le facteur espace. Alors maintenant, effectivement, la biosphère n'est pas absolument close, sinon elle ne pourrait pas vivre. Elle appartient à l'espace, ça peut nous réserver pour l'avenir des problèmes. On sait qu'en gros, c'est difficile à dire, mais je crois qu'en gros, tous les 100 000 ans, il y a des astéroïdes qui ont pris notre planète pour cible. Ça a joué un rôle parfois important, justement, dans l'évolution des espèces. Il est probable que ça nous arrive dans les dizaines de milliers d'années qui viennent. Je n'en sais rien. Bon, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre. Ça renvoie, encore une fois, aux limites qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas comme maîtres et possesseurs de la nature.
Monsieur.
Monsieur, admirable votre exposé. Et alors, j'ai écrit des choses. Bon, d'abord, c'est effectivement vrai que ce sont des phénomènes imprévisibles, donc il faut insister sur le rôle de l'homme là-dedans, donc avec tous les rôles négatifs dont on a parlé. Alors moi, ça me fait penser à une chose, quelle sera la première capitale au monde qui électrifiera toutes les voitures, hein, et qui interdira les voitures à l'essence, ça serait très bien pour l'atmosphère. Donc, en plus de ça, ça serait économiquement très rentable, il y aurait moins d'importation des trucs pétroliers et compagnie, ça serait très bien. Est-ce que c'est une forme de réponse que je vous apporte ?
Si vous voulez, pour vous répondre, je crois qu'il faut insister sur le fait, et c'est ça la difficulté aussi des problèmes d'environnement, c'est que très souvent, lorsqu'on retient une technique de substitution, elle a souvent tendance à occasionner d'autres problèmes. Par exemple, si on remplaçait effectivement toutes les voitures à moteur thermique par des voitures qui comporteraient un moteur électrique, pour le moment, le seul moyen que l'on aurait de pouvoir faire une telle substitution, ça serait de renforcer la production d'électricité nucléaire. Bon, pour le moment, si vous voulez, le problème essentiel de la production d'électricité nucléaire, on ne peut pas s'en passer dans l'immédiat, je crois que la chose est assez claire. Cela dit, on sait très bien que ça occasionne des déchets à longue durée pour lesquels on n'a pas de solution. Et que, alors même si la quantité de ces déchets à longue durée n'est pas immense, si on se mettait à produire partout, si vous voulez, pour maintenir la même quantité de trafic, hein, on aurait supprimé un certain type de problème, mais on en aurait suscité un autre. Ce qui fait qu'il faut toujours, quand on a affaire à un problème d'environnement, il ne faut jamais se focaliser, si vous voulez, sur une solution possible. Et il faut toujours aussi essayer d'envisager différents niveaux. Alors, c'est un peu ce que j'essayais de faire avec mon histoire de scénario démocratique, c'est-à-dire à la fois me tourner un petit peu vers les techniques, mais en disant attention, au travers de ces techniques, c'est peut-être quelque chose de plus profond qui s'annonce, et puis penser aux conférences citoyennes, aux principes de précaution, etc. Et donc, le meilleur moyen quand même aujourd'hui, quand même, hein, de lutter contre la pollution de l'air dans nos villes, ça serait de réduire, hein, la circulation, de renforcer les transports en commun. Alors effectivement, pourquoi pas dans un premier temps d'encourager les voitures électriques, mais vous savez, à produire, elles sont très... si vous voulez, je crois qu'un septième, par exemple, des émissions de gaz dues aujourd'hui à une voiture qui comporte un moteur thermique, est produit par la production même de cette voiture. Et si, par exemple, on fait des carrosseries plus légères, à base de carbone, justement, on va encore aggraver le problème. L'électricité, les batteries, c'est aussi très polluant. Vous voyez, donc, il faut bien voir qu'il n'y a pas de solution technique miracle et que... au-delà, si vous voulez, des solutions techniques, il convient de trouver. Ces solutions sont toujours partielles. Elles doivent toujours s'intégrer dans une conception plus large, plus politique, plus sociale, plus inventive, qui doit faire évoluer aussi nos comportements. Voilà ce que, me semble-t-il, je pourrais répondre à votre question.
Je voulais vous parler de deux phénomènes éventuellement optimistes qui se produiraient en aval. D'abord, la découverte de la destruction, si on prend par exemple l'exemple du CO2, la destruction du CO2, on sait le détruire dans les appareils d'anesthésie, par exemple par la chaussetée, donc ce n'est pas absolument absurde de penser à une destruction en aval des produits, des pollutions chimiques. Et d'autre part, deuxième phénomène, ce que j'appellerais l'autocorrection, cette fois-ci au sujet de la démographie. Vous avez effectivement une démographie galopante qui a beaucoup nuit, mais par contre, lorsqu'il y a un progrès, sauf ce qu'on appelle généralement le progrès, il y a une diminution de la natalité qui freine un peu les choses. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ces deux problèmes.
Si vous voulez, je vous rejoins sur ces deux points. Alors, commençons déjà effectivement par la démographie, ce qu'on appelle la transition démographique, hein, c'est-à-dire le passage d'une forme d'équilibre entre une grande natalité mais une grande mortalité, ça a toujours été un pseudo-équilibre, hein, un pseudo-équilibre entre une natalité plus faible mais une mortalité également plus faible, c'est effectivement un phénomène qui se vérifie sur l'ensemble de la planète et qui est plutôt rassurant pour notre avenir. C'est vrai. Maintenant, effectivement, il y a différentes sortes de différents moyens de lutter contre le carbone. C'est justement ce programme de décarbonisation de l'énergie. Alors, il y a toutes sortes de moyens possibles. Il y a aussi la possibilité, on sait déjà le faire aujourd'hui pour exploiter certaines nappes de gaz, c'est-à-dire de faire ressortir le gaz en injectant du carbone. Mais ce n'est pas, si vous voulez, forcément pour le moment et encore pour un avenir prévisible. Ces techniques ne sont pas à la hauteur de la quantité des émissions et elles-mêmes risquent de coûter très cher en énergie, alors quelle énergie justement, d'une part, et peut-être aussi de poser d'autres problèmes de pollution. On rejoint la réponse que j'ai faite à la remarque, mais en tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix. Et il faut chercher, multiplier les solutions techniques, mais encore une fois, jamais seulement, les solutions techniques.
Auparavant, je transmets une question qui nous vient de Laval, parce que les conférences sont retransmises dans les centres du CNAM. Quelles sont les perspectives de consultation justement des citoyens au niveau européen sur toutes ces questions ? Parce que vous avez parlé de démocratie participative.
Je vais vous parler d'une initiative que nous sommes plusieurs à avoir prise. L'origine de cette initiative, c'est un numéro de la revue des politiques polytechnicien qui s'appelle La Journée La Rouge. Le coordinateur de ce numéro, qui s'appelle Jean-Marc Iancovici, à la fin d'un excellent article de synthèse, appelait de ses voeux un référendum sur l'énergie en Europe. Bon, c'est, si vous voulez, probablement une utopie. Cela dit, cette idée fait son chemin. On a constitué autour de la Fondation Nicolas Hulot un comité de veille écologique, où Jean-Marc en question se trouve, mais beaucoup d'autres spécialistes et différents aspects de l'environnement, et on soutient nous aussi cette initiative. Et ce qu'on aimerait bien, c'est arriver, alors est-ce que nous serons suivis, je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut au moins essayer, de susciter la mise en œuvre dans les différents pays européens de conférences de citoyens qui, justement, auraient pour objectif de réfléchir sur le problème de l'énergie en Europe et sur les solutions éventuelles. Ce qui serait aussi un moyen d'attirer l'attention du public, de susciter un courant d'information. Alors, voilà une des initiatives possibles. Et si vous voulez la soutenir, eh bien, n'hésitez pas, vous trouverez tous les renseignements qu'il faut sur le site de cette fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, je crois. Bon, donc, on n'a pas le choix. Il faut essayer d'agir tous, chacun à son niveau. Je regrette, moi, ce matin, d'avoir dû venir en voiture, mais je n'avais pas de train. Alors, sauf à venir à pied, mais ça aurait été très long et j'aurais été trop fatigué pour vous parler. Je n'avais pas le choix. Mais là, la ligne Paris-Bâle, qui est une ligne que j'emploie souvent, est une ligne qui n'est pas électrifiée. Les habitants qui sont autour de la gare de l'Est en savent quelque chose. Vous savez, ça commence par des choix d'équipement. Il faut essayer d'agir chacun à son niveau et fermer la lumière quand on le peut, faire attention de ne pas trop chauffer, etc. À toutes sortes de niveaux, chacun peut contribuer à faire quelque chose pour que nous sortions de cette impasse, et je vous y invite, j'essaie pour ma part de le faire, mais pas plus brillamment, j'imagine, que chacun de vous.
Monsieur.
Oui, bonjour. Il ne s'agit pas pour moi de défendre l'effet de serre, et je crois qu'un contrôle des émissions de CO2 est une excellente chose. Par contre, n'y a-t-il pas quelques avantages? C'est-à-dire que jusqu'à une époque assez récente, on a connu notamment dans l'hémisphère nord des binisères glaciaires. Or, ce genre de choses qui a duré pratiquement jusqu'au début du 19e siècle s'est arrêté depuis quelques dizaines d'années et que ça correspond à peu près justement à l'essor de l'industrialisation. Or, je dirais, ces binisères glaciaires, si j'en crois ce que j'ai lu, ont quand même eu des conséquences très néfastes, tant au niveau de la population humaine que des disparitions de plantes et d'animaux. Donc, on voit beaucoup d'inconvénients à l'échauffement de la planète, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça aura aussi quelques avantages, et notamment, par exemple, en utilisant moins d'énergie pour nous chauffer?
Alors, c'est une excellente question, et si vous voulez, la réponse est à la fois oui, dans une certaine mesure. Alors, vous savez que le premier individu, qui en l'occurrence était un prix Nobel suédois de chimie, Arrhenius, à avoir fait le lien entre nos consommations d'énergie fossile et puis le phénomène naturel de l'effet de serre sans lequel il n'y aurait pas de vie sur Terre, eh bien, avait exactement votre raisonnement. Il était suédois, il savait très bien que les glaciers, au dernier pic glaciaire, c'est-à-dire il y a 18 000 ans, allaient jusqu'à Lyon, et qu'au prochain âge glaciaire, la Suède allait disparaître. Et vous savez d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles les Suédois ne se soucient pas trop de leur déchets nucléaires, c'est qu'ils pensent que la glaciation y pourvoira. Alors, vous avez raison. Simplement, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à... De toute façon, vous ne faites pas de souci, on n'arrivera jamais à revenir à l'état antérieur. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, si on arrive à maîtriser, ça éviterait quand même les 7 degrés dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourraient localement se traduire par 21 degrés. Vous imaginez que là, non seulement on n'a plus besoin de se chauffer, mais on aurait même besoin de se réfrigérer. Hein. Bon. Donc, il faut trouver, et on le fera même indépendamment de notre volonté. C'est sûr que de toute façon, on ne reviendra pas. L'objectif aujourd'hui, ça serait de stabiliser, hein, et de ne pas dépasser le doublement de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors déjà, si on arrivait à stabiliser à ce niveau-là, ce qui n'est pas simple, eh bien, on éviterait les dangers dont je vous... Enfin, on éviterait certains des dangers dont je vous parlais, je n'en sais rien, personne ne le sait, mais on pourrait aussi assurer les bénéfices dont vous parlez pour l'avenir.
Encore deux questions, madame.
Bonjour, je suis là. Merci pour votre discours. Bon, je crois énormément, effectivement, à la réforme d'un comportement individuel parce que je l'ai faite chez moi et que ça m'a aidé terriblement à cette prise de conscience. Bon, je tente une proposition, à savoir que face à cette dégradation écologique, est-ce qu'on ne pourrait pas tout au moins ralentir la création de molécules de synthèse et s'orienter bien plus vers la compréhension et la connaissance des molécules biologiques existantes pour éviter justement l'aggravation du système écologique?
C'est un peu, on le fait déjà, c'est-à-dire que la grande tendance aujourd'hui, c'est quand même de s'intéresser à la manière dont les êtres vivants utilisent les mécanismes du vivant pour se défendre. Il y a des travaux sur telle espèce d'oiseau pour savoir comment ils parviennent à lutter contre les infections bactériennes. Comme nous, ils sont victimes des infections bactériennes. On sait que la fourmi Atta utilise telle bactérie pour tuer d'autres bactéries pour pouvoir continuer à manger un champignon dont elle se nourrit, etc. Bon, elle a en quelque sorte mis au point un antibiotique dont la validité se maintient 50 millions d'années. On est très loin, vous savez, comme nous, le problème qui existe aujourd'hui sur le front des antibiotiques et de la résistance, la montée de la résistance des bactéries. Et donc, il y a, pour les médicaments d'ailleurs, il y a toutes sortes de programmes pour essayer justement de tirer des processus de défense du vivant des médicaments. Donc, d'utiliser en quelque sorte des molécules non de synthèse qui existent dans la nature
Justement, il y a une conférence sur les médicaments et j'ai posé la question pourquoi l'industrie pharmaceutique s'orientait vers les molécules de synthèse, et le conférencier m'a répliqué que tout simplement c'était pour éviter d'être dépendant des caprices de la nature. D'autre part, pour les ONG, aussi un conférencier auquel j'avais demandé si on avait étudié les différentes phases de mutation dans la nature, puisqu'il paraît qu'elles procèdent ainsi également, elles mutent, et il a dit absolument aucune étude. Enfin, en tous les cas, je pense qu'en ce qui le concernait, il avait vu aucune étude de ce genre avant de procéder justement aux ONG.
Alors, attendez, quand je dis, si vous voulez, qu'il y a un courant, une espèce de tendance à essayer de voir comment le vivant, lui, peut s'en tirer, c'est pas quelque chose qui doit nous interdire de modifier la nature, de modifier le milieu, parce qu'en tant qu'homme, je vous rappelais tout à l'heure déjà avec Homo habilis, on n'a pas de choix. Le problème, c'est pas de savoir si on doit artificialiser ou ne pas artificialiser. Dès qu'on agit en tant qu'humain, on artificialise. Le problème, c'est de savoir l'orientation qu'on peut donner à notre artificialisation. Et il y a la réponse que je vous avais donnée avec l'écologie industrielle. Mais simplement, effectivement, aujourd'hui, je crois que ce qui existe sur le front des antibiotiques, les problèmes d'environnement globaux, etc., doivent nous amener à être plus prudents, à être plus visionnaires, à voir plus loin quant aux effets de nos actions, et donc à savoir mieux discriminer, si vous voulez, effectivement telle molécule de synthèse peut être très intéressante ou si ce n'est pas le cas. On a sur un tout autre plan aujourd'hui, avec une illustration de cette affaire-là, avec la décision donc des autorités anglaises d'autoriser à des fins de clonage, non pas reproductif mais thérapeutique, l'utilisation de cellules embryonnaires, alors qu'on pourrait apparemment, d'après ce que j'ai lu, utiliser des cellules d'un individu adulte, consentant, pour les mêmes applications thérapeutiques. Donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas d'intervenir ou de ne pas intervenir, c'est la manière dont on intervient. C'est de ne pas artificialiser ou de ne pas artificialiser. Mais si on peut effectivement aboutir au même résultat, et avec un résultat plus durable, en imitant tel ou tel être vivant, c'est fantastique. Si on n'a pas cette opportunité-là, on n'en a pas d'autre que d'essayer de s'en tirer autrement.
Monsieur, dernière question.
Oui, bonjour. Je me souviens, à une époque, je militais dans une organisation écologiste et une fois, j'ai pris la voiture avec la responsable du groupement local. Et puis, à un moment, son cendrier était plein et elle l'a vidé par la fenêtre. Alors, on a beaucoup parlé de technique. Moi, je pense que c'est un peu un faux problème. J'aurais pu répondre à ces histoires de CERN. Bon, de réchauffement. Moi, je pense que le problème n'est pas là, quoi. Vraiment. Votre approche sur l'écologie industrielle, je pense qu'il faut que vous changiez votre appellation, c'est pas grave, est très intéressant de passer de aller vers un cycle, mais encore faut-il qu'on vous suive là-dessus, encore faut-il que la population, lapsus, comment vous disiez, dangereux, quand faut-il que tout le monde vous suive? Alors qu'aujourd'hui, à mon avis, le problème, c'est que les gens là-dessus, sur oui, j'ai envie de sauver la planète ou pas, enfin, ou j'ai envie de vivre, de consommer, les gens se différencient de plus en plus là-dessus. Et c'est à mon avis là que réside l'une des difficultés, c'est l'approbation par, peut-être pas tous, mais une grande majorité d'un système, enfin d'un système, d'une politique pareille.
Alors, je ferai la même réponse, mais en sens inverse, en quelque sorte, que celle que j'ai déjà faite avant. Je crois qu'il faut absolument, si vous voulez, dans cette situation quand même difficile qui est la nôtre, on s'est mis quand même un peu dans un piège, quoi. Eh bien, on n'a pas d'autre solution que de faire, intelligemment quand même, feu de tout bois. Et les solutions techniques, en aucun cas, ne sauraient être, si vous voulez, délaissées, mais j'y insiste, et vous avez raison, elles ne peuvent être les seules à nous permettre de nous en sortir. Nos mentalités, nos modes de vie, etc., sont évidemment aussi en cause. Mais on n'a pas non plus à être majociste. Hein, si on peut continuer à faire profiter un maximum de gens de conditions de confort sans pour autant continuer à dégrader la biosphère, je ne vois pas pourquoi on devrait y renoncer. Alors maintenant, pour l'écologie industrielle, rassurez-vous, c'est né dans cette académie des sciences de l'ingénieur, mais on peut déjà trouver une esquisse de ça, par exemple, dans le macroscope, par exemple, de Joël de Ronet. C'est une idée qui est née au Japon, qui est née aux États-Unis, un peu comme souvent les grandes idées, elles naissent à différents endroits en même temps. Mais je peux vous rassurer, les industriels, on ne peut pas, si vous voulez, leur problème, c'est quand même de dégager des bénéfices. On ne peut pas demander à un boulanger de ne pas faire de pain et à un industriel de ne pas faire de bénéfices. Simplement, l'intérêt de l'écologie industrielle, c'est que c'est un mode de management. Enfin, il faudra qu'il fasse ses preuves, mais qui, semble-t-il, devrait aussi leur permettre de polluer moins en continuant à dégager des bénéfices. C'est-à-dire que toutes les quatre points dont je parlais dans un premier temps, normalement, doivent déboucher sur des gains de productivité. Si ce n'était pas le cas, je crois qu'on aurait peu d'espoir alors de ce côté-là, et on ne doit pas s'en offusquer.
Dominique Bourg, merci.